Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, aujourd'hui dans À voix haute, je vous propose de découvrir le livre de Noga Al-Balar, Le vieil homme des adieux, traduit de l'hébreu par Rosie Pignas del Puech et paru aux éditions Do en 2020. C'est un très beau roman d'une écrivaine et éditrice israélienne qui a reçu pour ce livre le prestigieux prix Brenner qui est décerné par l'Association des écrivains hébraïques d'Israël. Lorsque le vieil homme fut soumis au test de mémoire mini-mental et qu'on lui demanda où il habitait, il ne sut que répondre. Quand on lui demanda quel jour on était, il ne sut que répondre. Il avait même oublié l'année et quand on lui demanda de préciser son âge, il dit un nombre inexact. Un écart de 30 ans. La fille du vieil homme était assise à ses côtés. Et c'est seulement alors que le déclic se fit et qu'elle comprit exactement la situation. « Qu'est-ce qui est accroché là, sur le mur ?» lui demanda la jeune examinatrice en lui montrant le mur. Le vieil homme regarda l'horloge murale et ne sut la nommer. « Dites-moi quatre mots qui commencent par la lettre B, » dit la jeune examinatrice en lisant sur une feuille. « La lettre B ?» répéta doucement le vieil homme. « Oui, » dit la jeune examinatrice. Et elle donna comme exemple le mot « ballon ». Elle ne pouvait pas savoir que le vieil homme avait composé un dictionnaire et qu'il n'y a pas longtemps, il collectait encore des mots qu'il écrivait sur des feuilles blanches entassées en piles interminables. Le vieil homme réfléchit longtemps et essaya de trouver un mot qui commençait par la lettre « B ». Assise à côté de lui, sa fille réfléchit. Banc, béton, bille, blouse. Mais le vieil homme se taisait. Plus le silence durait, plus il se recroquevillait. Il ne se souvenait pas des faits. Il avait oublié les mots. Mais il comprenait les situations exactement comme autrefois. Les émotions l'animaient exactement comme autrefois. Son honneur lui importait exactement comme autrefois, sinon davantage. C'est pourquoi il se redressa et leva la main. « Je vous prie d'écrire, » dit-il à la jeune examinatrice qui avait un classeur sur ses genoux, « que pendant la guerre d'indépendance, j'ai combattu avec Rabin. » Le vieil homme rendit visite avec sa femme et sa fille à son frère plus âgé que lui. En arrivant, ils le trouvèrent en train de regarder un programme de chansons. Le frère s'adressa au vieil homme en lui montrant l'écran de télévision. « Tu les connais tous ?» lui demanda-t-il, comme s'il essayait de comprendre si c'était de sa faute ou celle de la réalité. Le vieil homme observa les personnages en train de bouger sur l'écran et dit « Non, je ne les connais pas tous. » Puis il s'assit à côté de son frère. Ils ne les connaissaient pas tous, mais ils les regardèrent ensemble. Deux mois plus tard, ils retournèrent voir le frère du vieil homme. Cette fois-ci, ils le trouvèrent couché, épuisé, avec une bouillie dans la gorge. Apparemment, il ne savait plus comment avaler et peut-être n'en avait-il plus envie. Le vieil homme était assis chez lui dans le fauteuil. En face de lui, une travailleuse sociale. « Racontez-moi, lui dit-elle d'une voix compatissante, ce que vous faisiez, quel était votre métier ?» Le vieil homme la regarda un instant, puis lui répondit le plus naturellement du monde, avec toutefois une pointe de fierté. « Je suis ouvrier en bâtiment. » Il ne se rappelait pas qui était la femme en face de lui, ni que durant 50 ans il avait été avocat. Un avocat dévoué, sagace, au service de la justice. Il ne demandait pas d'honoraires aux nombreux clients qui ne pouvaient pas le payer. Il avait oublié tout cela, mais se souvenait d'avoir été ouvrier en bâtiment dans sa jeunesse, ou plus exactement coffreur. Le soir, après son travail, il étudiait le droit en cours du soir à l'antenne tel-avivienne de l'Université de Jérusalem. La langue lui était difficile. Il y a quelques années, en passant avec sa fille rue Arlozorov, devant le siège de la Histadrout, le grand syndicat du pays, il lui avait dit « Tu vois, c'est moi qui ai construit ce bâtiment ». Sur Wikipédia, on cite le nom de 9 architectes. Le nom du vieil homme n'y figure pas. Chaque fois que la fille du vieil homme passe devant le bâtiment de la Histadrout, elle pense qu'autrefois son père l'a construit. Après avoir été appelée en urgence, la fille du vieil homme arriva chez ses parents. Elle trouva le vieil homme debout, en colère, devant la porte. Il portait un manteau noir, une casquette noire et tenait à la main une sacoche en plastique noir. Il dit qu'il doit aller chez sa femme, dit la femme du vieil homme. Pendant la grande crise qu'elle traversa dans sa vie, le vieil homme fut le soutien principal de sa fille. Il ne lui prodigua pas de conseils, ne lui donna pas d'ordres, mais l'accompagna dans la recherche de l'action juste. Il lui téléphonait, ce qu'il ne faisait jamais quand tout était paisible. Dans ces moments-là, c'était sa femme qui dirigeait la chaîne de communication avec la fille. Mais pendant la grande crise, il n'attendit pas la permission et avança de 6 pas jusqu'à l'avant-scène. Une fois la crise passée et les jours paisibles revenus, il regagna sa place naturelle sur le côté. Et quand les choses se furent apaisées, un zona intercostal attaqua le vieil homme qui se gratta pendant une bonne dizaine d'années. Quand la jeune auxiliaire de vie philippine entra pour la première fois dans l'appartement du vieil homme et de sa femme, le vieil homme vint à sa rencontre, lui tendit la main et la salua chaleureusement. « Ich möchte Sie herzlich willkommen », c'est-à-dire « Je voudrais saluer chaleureusement votre venue ». La fille du vieil homme ne savait même pas que son père parlait l'allemand. Ainsi, les langues qu'il parlait s'élevèrent au nombre de 7. Si le vieil homme avait été lucide, il aurait sûrement dit « Mais pourquoi faire ? Quitter une petite fille pour moi et parcourir la moitié de la planète ? Pas question. Cette jeune femme doit rentrer immédiatement chez elle aux Philippines. » Mais, comme le vieil homme n'est plus lucide, sa famille peut transgresser toute morale et en faire à sa guise. La fille du vieil homme se souvient que son père était préoccupé par la recherche d'Adidas neuves. C'était dans les années 80, avant son voyage en Bulgarie, son pays de naissance. Là-bas, il avait un ami, lequel ami avait 2 enfants adolescents. Ces derniers, se sentant enfermés dans leur pays communiste, étaient avides de symboles occidentaux. Leur convoitise suprême était une paire de baskets Adidas et le vieil homme s'était mis en tête de la satisfaire. Il aimait son ami. C'était un ami d'enfance. Il s'appelait Vasco, était médecin. Le vieil homme habitait chez lui à chacun de ses voyages dans sa patrie et se promenait en compagnie de l'ami et de sa femme, elle aussi médecin, comme la femme du vieil homme. Cette manière qu'avait le vieil homme de s'abriter auprès de médecins était un peu bizarre. À 30 ans de distance, la fille du vieil homme peut associer à l'histoire ci-dessus les 2 faits suivants. 1. Pour une raison qui lui resta inexpliquée, Une grande querelle éclata à la fin des années 80 entre Vasco et le vieil homme. Les deux amis ne se revirent plus jamais. Avant que ne s'abatte sur eux cette rupture cruelle, le vieil homme écrivit à Vasco une lettre de 20 pages. La fille du vieil homme ne sait pas si jamais Vasco y répondit. 2. Elle, c'est-à-dire la fille du vieil homme, n'eut jamais de basket Adidas et n'en demanda jamais. À la fin du repas de fête, la fille raccompagna chez eux le vieil homme et sa femme. « Ce n'est pas ma maison, » dit le vieil homme sur le trottoir devant chez lui. « Viens, » dit sa fille, « je vais te prouver que c'est chez toi. » Le vieil homme obéit et la suivit. « Tu reconnais cette robe de chambre ?» lui demanda-t-elle. « Oui, c'est la mienne, » lui répondit-il. « Alors, c'est ta chambre, » dit-elle. « Et c'est ton lit. » Et elle montra le double lit. « Et voici ton oreiller et ta couverture, » ajouta-t-elle. Le vieil homme examina le lit avec attention. « Et qui dort ici ?» demanda-t-il en montrant du doigt. « C'est maman qui dort ici, » dit la fille du vieil homme. « Non, » dit le vieil homme, et il se dirigea d'un pas décidé vers la porte de l'appartement. « Je veux sortir. » On le laissa sortir. Au bout de l'allée qui débouchait sur la rue, il s'arrêta sans savoir où aller. Sa fille était à ses côtés. « Je refuse de dormir à côté d'une femme étrangère. Que vont penser les gens? Que vont-ils penser d'elle ?» Ils restèrent ainsi dans la rue jusqu'à minuit. Le vieil homme était obstiné, dans sa lucidité comme dans son trouble. C'est seulement par fatigue qu'il finit par céder et accepter de monter chez lui. Toute la nuit, il dormit sur le fauteuil du salon, par fidélité à sa femme qui dormit dans la pièce à côté. Dans la chambre à coucher, la femme du vieil homme l'aide à passer ses jambes dans le pantalon. « Tu viens travailler demain aussi ?» lui demande le vieil homme. Au fil des années, le vieil homme enregistra de nombreuses émissions de radio qu'il trouvait intéressantes. 2 heures de chansons françaises présentées par Emmanuel Halperin, une émission sur les accords de Camp David, une émission historique sur le débarquement en Normandie, un entretien avec Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, des chansons folkloriques bulgares. Le concert du groupe Benzine qu'il enregistra pour sa fille. Il n'y a pas longtemps, elle jeta en cachette des dizaines de ses cassettes. Non loin de chez elle, quand la fille du vieil homme voit les bouquets de gratte-ciel pousser sous ses yeux, elle se dit « Ce sont ces tours qui ont fait venir jusque chez nous la gentille auxiliaire de vie philippine. Plus grand, plus fort, plus vite. Dans une vie de croissance accélérée, on n'a pas le temps de s'occuper des parents. L'immeuble poussera, le marché produira, la fille du vieil homme évoluera sur divers plans. La fille de l'auxiliaire philippine poussera sans mère à ses côtés. » Au cours d'un dîner familial, le vieil homme demanda soudain à son gendre « Comment va ton frère qui habite à l'étranger ?» Tout le monde comprit aussitôt que le vieil homme avait un moment de lucidité. Il savait qui était autour de la table et demanda même des nouvelles d'un tel et une telle qui manquaient ce soir-là. La tablée se remplit de joie. On répondit à ses questions et chaque réponse suscita chez lui une nouvelle question raisonnable. Alors sa femme s'adressa à lui. « Shlomo, » dit-elle, « ça te vexe que je parle l'anglais avec l'auxiliaire et que tu ne comprennes pas ?» Puis elle ajouta, « Comment vas-tu, Shlomo? Comment vas-tu ?» On avait l'impression qu'elle s'empressait de collecter des informations précieuses avant que le vieil homme ne tourne les talons et disparaisse dans le pays lointain d'où il avait soudain surgi pour une brève visite.
Un as de rebe singt, un as de rebe singt, singen alle Chassiden, oi singen alle Chassiden. Oi amma ba 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 ba. Singen alle Chassiden, oi amma ba 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 ba. Singen alle Chassiden. Und wenn der Rebbe lacht, und wenn der Rebbe lacht, lachen alle Chassiden, oi lachen alle Chassiden. Ja, ba 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 ja, ba 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 ba. Lachen alle Chassiden, ja, ba 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 ja, ba 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 ba. Lachen alle Chassiden. Und wenn der Rebbe schluft, und wenn der Rebbe schluft, schlufen alle Chassiden, schlufen alle Chassiden. Jo, bo, 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 jo, bo, 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 bo. Schlufen alle Chassiden, ah, ja, bo, 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 bo. Ja, bo, 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 bo. Schlufen alle Chassiden. Nur wenn der Rebbe trinkt, nur wenn der Rebbe trinkt, trinken alle Chassiden, trinken alle Chassiden. Jo bo 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 bo, jo bo bo, jo bo 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 bo, jo bo bo. Trinken alle Chassiden, hey, jo bo 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 bo, hey. Trinken alle Chassiden. Nur wenn der Rebbe weint, nur wenn der Rebbe, der Rebbe, der Rebbe, oi, 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 wenn der Rebbe weint, ui weinen, weinen alle Chassiden. Ui weinen, weinen alle Chassiden. Ui ja, ba 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 ba, hoi ba 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 ba, ba 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 ba. Weinen alle Chassiden, ha, ja, ba 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 ba. Weinen alle Chassiden, nur wenn der Rebbe tanzt. Nur wenn der Rebbe tanzt, tanzen alle Chassiden, ui, tanzen alle Chassiden, ai, ja, ba, 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 ai, ja, ba, 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 tanzen alle Chassiden,
À voix haute, Meredith Ledez.
Le vieil homme se plaignit auprès de sa fille. « Ça fait 25 jours que je n'ai pas quitté la maison. »« Mais ce n'est pas vrai, papa. »« Comment est-ce possible que je ne sois pas sortie depuis 25 jours ?» insista-t-il. « On me cache la clé. Elle me cache la clé. » Et il tendit un doigt accusateur vers sa femme. Il s'assit dans son fauteuil et frappa de la main la petite table devant lui. « Ce sera comme ça toute la vie ?» demanda-t-il. « Shlomo, dit sa femme, tu as plus de 90 ans. Que signifie toute la vie ?»«
Je ne sais pas, répondit-il. Peut-être que je vivrai longtemps, comme toi. »«
Mais je suis plus jeune que toi, dit-elle. » Quelques jours plus tard, le vieil homme se posta devant la porte verrouillée de son appartement et demanda de nouveau à sortir. Sa femme, à ses côtés, lui expliqua qu'il n'avait pas le droit de sortir seul. La fille du vieil homme ne sait pas combien de temps dura cette attente obstinée et impuissante devant la porte quand elle entendit son téléphone sonner et la voix de l'auxiliaire philippine articuler des mots insaisissables. « Your dad hit your mom. »«
Si tu frappes encore une fois, maman, j'appellerai la police, tu m'entends ?» cria la fille du vieil homme.
Un jour, au cours d'une discussion, comme pour la blâmer de son impertinence et lui montrer qu'il maîtrisait les détails mieux qu'elle, le vieil homme dit « Ne crois pas que je ne sais pas. J'ai connu ton père. » C'était un homme sympathique, convenable. De même qu'il avait exigé de sortir de chez lui, le vieil homme refusa soudain de quitter la maison. Après avoir ainsi refusé de sortir pendant 2 semaines, sa fille vint et le persuada d'aller faire une promenade avec elle. Traverser la rue et aller s'asseoir sur un banc en face de la maison, c'est aussi une promenade, se dit la fille. En fait, être assis en plein air offrait des scènes joyeuses. Des parents avec des poussettes, des gens en jogging et chaussures de sport, des enfants qui couraient, des chiens qui tiraient sur leur laisse et reniflaient, des feuilles agitées par la brise. Un peu plus tôt, sur l'allée devant la maison, la fille demanda au vieil homme « Papa, tu te souviens de ton âge ?» Le père lui répondit lentement et d'un air réfléchi, « 7200 ans. » Tandis que la fille du vieil homme assistait à un concert d'élèves où sa fille cadette jouait à la guitare électrique le célèbre solo de Pink Floyd, « Another Brick in the Wall », son téléphone vibra dans son sac. Le petit écran afficha « Parents ». À la fin du concert, sa mère lui dit « Ton père a du sang dans les urines, il faut le conduire aux urgences. » Après quelques heures d'attente nocturne, la fille du vieil homme dit « Ce n'est pas la peine d'être 3 à l'attendre. » Alors, la femme du vieil homme et l'auxiliaire philippine rentrèrent dormir à la maison. Comme il n'y avait pas de chaise dans la salle des urgences, la fille alla s'asseoir dans l'entrée. Quand elle revint quelques minutes plus tard, elle trouva son père assis au bord du brancard, prêt à sauter. C'était une position dangereuse, mais elle ne résumait pas l'ensemble de l'image. Le vieil homme était assis au bord du brancard, avec une couche pour seul vêtement. Il avait réussi à enlever tout seul la chemise d'hôpital. Et s'il avait pu, il se serait défait de la couche agaçante dont il n'avait pas eu besoin jusqu'à ce jour. Et maintenant, assis comme un bébé au bord du lit d'hôpital, l'esprit confus, il cherchait un moyen d'en descendre. Si la fille du vieil homme avait été photographe, elle aurait eu sous les yeux un instantané artistique étonnant. Surréaliste mais touchant, grotesque mais plein de tendresse et de compassion. Un vieil homme moustachu, avec une couche pour seul vêtement, assis comme un enfant au bord du brancard surélevé, l'air à la fois obstiné et impuissant. La fille du vieil homme n'est pas photographe. Pourtant, cette image est imprimée sur la pellicule de sa mémoire et elle y restera longtemps. Après cette première journée d'hospitalisation de son père, L'odeur d'urine ne quitta plus la fille du vieil homme. « Je n'arrive pas à me débarrasser de l'odeur d'urine, » dit-elle à sa famille. Alors son fils lui apporta une grande botte de feuilles de basilic. La fille du vieil homme prit la botte et, sans rien dire, y enfouit son nez. Les jours suivants, à l'hôpital, l'odeur d'urine céda la place à une autre odeur nouvelle et inconnue. Elle se dégageait de la bouche du vieil homme et n'était perceptible que de près. Chaque fois que sa fille s'asseyait au bord de son lit et approchait sa tête de celle du vieil homme pour essayer de comprendre ce qu'il disait, elle sentait cette odeur, chaude et douceâtre, avec une nuance de vieux, de trop mûr, d'attente au-delà de la date de péremption. Comme un vin rouge qui aurait trop séjourné dans le cellier ou une prune trop mûre mais pas encore pourrie. Quoi qu'il en soit, la couleur de cette odeur indéfinissable était bordeaux. Le vieil homme était hospitalisé en médecine interne et racontait des histoires d'une voix faible. Debout à ses côtés, sa fille essayait d'écouter, de comprendre, de suivre. Ses tentatives n'étaient pas couronnées de succès parce que les histoires étaient trop marmonnées, incompréhensibles et interminables. Il est évidemment impossible de les transcrire telles quelles, ni d'en résumer le fil conducteur. On ne peut que citer un choix de phrases au hasard, saisies au vol par l'oreille, parmi d'autres phrases semblables, des lambeaux de conscience détachés. Il y aura une querelle entre Israël et les Turcs. Un bateau et de la glace, tu ne le savais pas? Par la suite, ça s'est vendu et ils ont fait à manger. On est au comité des ouvriers ici? Je ne connais pas de passeport ou un ou deux, à vous de décider. Il y a des gens, ils transmettent tous leurs droits. Vendez-les et on vous donnera de l'argent. Devant le lit d'hôpital, le vieil homme. Combien il paye ici? La fille. Il ne paye pas. Le vieil homme. Alors je travaille pour quoi? De nouveau près du lit d'hôpital. La fille. Dis papa, tu sais qui je suis? Le vieil homme. Qui pose la question? Un autre jour, près du lit d'hôpital, la femme. Comment tu te sens? Le vieil homme. Comme un chapeau dans le cul. La fille du vieil homme est contente quand son père parle, quels que soient les mots qui s'échappent de sa bouche. La fille du vieil homme le nourrit à la cuillère, l'abreuva, le tira et le traîna le long de son lit pour qu'il soit à son aise. Elle le couvrit, prit sa main dans sa main, essuya son menton et son cou où avaient coulé des restes de nourriture. Lorsqu'il bougea ses jambes avec l'intention de sortir du lit, elle les remit obstinément à leur place. De même qu'elle retira le dentier de sa bouche et le remit, chose que personne d'autre qu'elle ne parvenait à faire. La fille du vieil homme ne cessait de toucher son père. Jusqu'alors, durant presque 4 décennies, il n'y avait eu entre eux aucune proximité corporelle. Un jour, les médecins annoncèrent que le vieil homme serait renvoyé chez lui avec un cathéter et en fauteuil roulant. « Il ira bien, se dit la fille du vieil homme. Il fera de la kinésithérapie, reprendra des forces et pourra remarcher. » Il avait bien marché et mangé tout seul il y a 10 jours. Sauf que les heures passaient, la libération tant attendue approchait et le vieil homme déclinait. « Je ne le ramène pas à la maison dans cet état, » dit la femme du vieil homme. La fille du vieil homme visita 4 maisons médicalisées ce jour-là et, à l'issue d'un conciliabule avec sa mère qui ne dura pas plus de 5 minutes, elles décidèrent de l'endroit où le placer. D'une certaine manière, la pensée s'accoutuma rapidement aux mensualités astronomiques de ce genre d'institution. Le double d'un salaire moyen sur le marché, presque le double des études annuelles à l'université, 4 fois le salaire de la gentille auxiliaire des Philippines. Les allocations que recevait le vieil homme ne couvriraient jamais une telle somme. Pourtant, elles l'y placèrent. Le vieil homme disparut dans sa chambre, dans un service. 10 minutes plus tard, il en ressortit, poussé dans un fauteuil roulant, lavé et vêtu de vêtements propres. C'était son premier lavage à fond depuis longtemps, et ses vêtements frais, une chemise bleue et un chandail bleu marine, lui donnaient un air de bon élève appliqué. La fille du vieil homme le photographia aux côtés de Yelena, la soignante en chef du service, comme sur une photo de classe. Service médicalisé B2, 2017, promotion 937. C'était « Le vieil homme des adieux », un livre particulièrement sensible sur la vieillesse de l'écrivaine israélienne Noga Al-Balakh, traduit de l'hébreu par Rosie Pignas Delpuech et publié par les très belles éditions d'O en 2020. Vous avez pu entendre en interlude musical une chanson yiddish extraite de l'album Yankele. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guillon. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.